Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, Tiphaine.
Bonjour.
Bonjour. Tu es ici pour nous parler de la soirée de soutien aux migrants qui va avoir lieu à Châtillon-Andiwa, à la salle des fêtes, je pense la salle Henri Kubnik, vendredi 21 février. Entre 16h et minuit. Tu vas nous présenter brièvement la programmation de cette journée, puis on abordera un peu plus en détail certaines choses.
Alors, oui, du coup, la soirée de soutien qui aura lieu le 21 février à Châtillon, c'est la deuxième soirée de soutien du coup, qu'on organise pour ramener un peu de sous et surtout faire de l'information autour de la situation des frontières et des migrations aujourd'hui et notamment de ce qui se passe dans la Drôme et dans les Hautes-Alpes. Pour cette soirée du 21 février, donc un mercredi qui tombe pendant les vacances, on propose aux gens de se retrouver à partir de 16h pour le goûter et pour commencer sur un point d'information sur la situation. Du coup, il y aura de l'info au niveau donc à lire. Il y aura des personnes qui seront là pour témoigner. Il y aura aussi du coup l'occasion de poser des questions pour les personnes qui voudraient savoir ce qui se passe et aussi comment s'investir dans la Drôme directement et un peu plus large s'il y a des personnes qui viennent des Hautes-Alpes. Voilà, donc ça c'est vraiment un temps d'échange et d'information qui nous tient beaucoup à cœur parce que la situation est invisibilisée dans les médias, ou en tout cas si elle n'est pas invisibilisée, elle n'est pas toujours dite de la manière dont on la vit au réel. À partir de 17h30, il y a une revue, une super revue qui s'appelle Nunatak, revue d'histoire, culture et lutte des montagnes, qui viendra, donc les personnes qui écrivent cette revue viendront parler de leur travail. C'est une conversation qu'on a intitulée « Et si on parlait des frontières ?» puisque du coup, cette revue autour des montagnes parle des luttes aux frontières, mais pas que. Voilà. Il y a un temps de repas ensuite, puisqu'on a une activité de cantine à l'intérieur du collectif et que le repas est toujours un moment fédérateur où on pourra continuer à échanger autour de la situation et de comment s'impliquer. Et à partir de 20h, donc il y a plusieurs concerts qui sont organisés. D'abord un groupe qui s'appelle Enfance Sauvage, donc c'est du punk rock masqué, du punk brumeux élevé par les animaux depuis 2011 et donc avec des émeutiers, une jambe pourrie, des bouts de forêt, une muse en sueur. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance et on enchaînera directement après avec un autre groupe de la même équipe qui s'appelle Petra Pied de Biche. Et là, du coup, c'est du French Cold Groove, air chaud et froid, un solo sans guitare. Les chansons sont savoureuses, mais ne se mangent pas. Elles peuvent laisser un goût amer. Voilà. Donc, tout au long de la soirée, il y aura aussi un superbe collectif qui vient avec sa librairie et son infokiosque distro qui s'appelle La Loutre par les cornes. Voilà, qui du coup proposera pas mal de livres d'édition indépendante, des brochures d'infokiosques sur des thèmes variés. Et nous, au sein du collectif, du coup, on proposera aussi un infokiosque spécial sur le thème des migrations, des frontières et comment ça se passe aujourd'hui, voilà, avec des récits aussi récents. En gros, je crois que j'ai tout dit. On mangera bien sûr un repas africain, voilà, puisque donc une grande partie des personnes qui sont accueillies dans la région viennent d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Ouest.
On va parler un peu de ce qui est actuellement la démarche faite autour des migrants dans le territoire. Donc cette soirée, c'est un écho de celle qui avait eu lieu déjà à l'automne dernier à Minglon. Ça vous a donné beaucoup d'espoir, cette soirée de Minglon, cette journée même de Minglon.
La journée à Minglon était magnifique. parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Je pense qu'il y a eu 500 personnes sur la journée soirée. Il y a eu des beaux échanges. Il y a eu aussi du coup une réelle participation des différents collectifs qui sont aussi actifs sur les Hautes-Alpes. Et ça nous a permis de voir que beaucoup de personnes se questionnaient et avaient envie d'agir. Donc ça, c'était chouette. Et surtout, on a vraiment fait la fête. Ça faisait beaucoup de bien pour nous, membres des différents collectifs, mais aussi pour les personnes qui ont passé la frontière il n'y a pas très longtemps, ont été dans des situations assez difficiles durant un parcours qui a pu être assez long. Et donc, pour eux, c'est assez important aussi de voir qu'en France, il n'y a pas que l'État français qui met des freins, mais il y a aussi les personnes qui sont là pour soutenir. Et ce soutien-là, elle a été aussi très importante, cette soirée, parce que une lutte comme celle-ci, ça demande aussi des finances pour pas mal de choses qu'on pourra détailler un peu plus tard dans l'interview si vous avez envie. Mais ça nous a permis de mettre des sous dans les caisses. Et ça, faut en parler parce que cette soirée à Châtillon, c'est un peu les mêmes objectifs. Amener de l'argent, amener de la convivialité, des dons aussi, en nourriture, en vêtements. Il y a plus ou moins de besoins en fonction des moments, mais du coup, il y a toujours des besoins dans ce sens-là. Et donc, financiers, voilà.
Donc, vous refaites cette soirée à Châtillon dans la même perspective de rencontrer et de revoir ces gens aussi, et puis d'en interpeller de nouveau.
Oui, exactement. La situation des aux frontières, elle est assez complexe parce que c'est pas qu'elle est mal relayée, on peut voir là depuis quelques mois qu'elle est de plus en plus médiatisée par des médias mainstream, des articles assez nombreux, des vidéos, des journalistes qui vont sur le terrain et tout. Mais c'est assez compliqué en fait de se l'approprier. Et c'est vrai que ici dans la Drôme, pour les personnes qui sont pas au courant, on est vraiment pas très loin de disons le nouveau point de passage, puisque les points de passage plus dans le sud, Vintimille, La Roya, du côté de Menton, tout ça sont complètement bloqués, surmilitarisés, et il y a beaucoup de répression. Donc c'est très difficile et pour les militants et pour les personnes qui sont en exil de trouver des moyens de passer. Donc depuis disons un peu plus de 6 mois, la frontière le passage s'est décalé du côté de Briançon et du col de l'Échelle. Donc du coup, comme cette situation est relayée d'une certaine manière par les médias, et que nous en local il y a des besoins qui sont très concrets et pas forcément toujours clairs pour les personnes qui voudraient s'investir, c'est un vrai temps d'échange. Un vrai temps où il y a du concret qui vient réveiller aussi qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Puisque du coup, cette situation des frontières et les lois qui disons, régulent les processus d'accueil en France sont très, très, très compliquées. Et souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas intervenir. Et nous, on essaye aussi de se questionner et de se questionner aussi avec les personnes qui arrivent en France et qui découvrent l'administration française et tout et tout. Et aussi en local, comment se réapproprier ces thématiques-là qui sont assez inhumaines en soi, si on regarde en profondeur, et sur lesquelles on a l'impression de pas avoir de prise. Le fait de pouvoir en discuter ensemble, le fait de pouvoir aussi rencontrer des personnes qui viennent raconter leur histoire, c'est ce qui s'est passé à Minglon, et c'est ce qu'on aimerait du coup faire vivre à la soirée du 21 février à Châtillon. C'est qu'il y a des personnes qui sont dans la Drôme, qui sont accueillies, qui viennent du coup majoritairement d'Afrique de l'Ouest et qui ont des histoires. Et en fait, ils viennent chercher, effectivement, ils viennent demander l'asile en France. Mais voilà, en se rencontrant, en échangeant sur nos différentes cultures, c'est là où on retrouve en fait la réelle prise et où on sort de ces impasses qui sont imposées par l'État.
Et donc, depuis cette soirée de Minglon, qu'en est-il de ces jeunes personnes arrivées et accueillies dans le Diwa ?
Jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que du coup, il y a effectivement des personnes mineures, mais il y a aussi des personnes qui sont majeures. Les situations sont très variées, sans se concentrer uniquement sur la Drôme, puisque du coup, voilà, il y a une situation... Il y a des situations qui sont assez similaires depuis les Hautes-Alpes, depuis donc Briançon, Gap, Vennes jusqu'ici. Il y a aussi des situations qu'on retrouve dans les collectifs qui sont plus vers Valence, des collectifs qui sont montés à l'ouverture du CAO et tout. Donc il y a plein de situations très très différentes. Pour les personnes qui sont accueillies, Il y a plein de choses qui viennent intervenir. Il y a la demande de papier, il y a comment ils sont accueillis sur le territoire, il y a pour certains la scolarisation, l'accueil dans les familles, donc trouver des foyers. Aujourd'hui, dans la Drôme, dans le Diwa et un peu plus large, il y a un suivi qui est fait de toute cette administration qui est très, 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 très lourde à porter. Et puis, au niveau de la compréhension, c'est très compliqué parce que c'est des textes de loi et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impasses, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Donc, c'est des personnes qui sont en procédure de... même pas de demande d'asile, puisque c'est avec la loi Dublin, donc maintenant loi Dublin 3, donc c'est des accords qui sont les accords Schengen, qui sont des accords qui sont européens. Les personnes qui arrivent en Europe sont en fait renvoyées vers le premier pays par lequel ils sont arrivés. C'est la loi Dublin qui impose ça, et donc la plupart des personnes qui sont accueillies, en tout cas vers ici, sont quasiment toutes dublinées, on dit, et donc du coup peuvent être renvoyées en Italie, qui est le pays par lequel elles sont passées, le pays dans lequel on a pris leurs empreintes une à plusieurs fois, et souvent ces personnes ont fait une demande d'asile en Italie sans même être au courant. Quand les personnes arrivent en France et quand elles apprennent ça, puisque en fait le problème c'est beaucoup la langue, dans les personnes qui arrivent ici sont beaucoup francophones, donc du coup c'est pour ça qu'elles arrivent et elles veulent demander l'asile en France. Et quand on leur dit ben en fait non, t'as demandé l'asile en Italie, c'est des personnes qui ont passé quelquefois plusieurs mois, quelquefois même une année et demie en Italie, dans des campos fermés, avec une situation en Italie qui est très 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 compliquée, puisqu'il y a énormément de migrants qui, disons, stagnent, sont en transition dans ce pays, mais ont du mal à en sortir à cause de cette, justement, loi Dublin. Et donc, du coup, je connais pas les chiffres, mais je pense que c'est à peu près, disons, 500 000 personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Et dans les campos, c'est très fermé. Ils sont assez maltraités. Il n'y a pas de traducteur. Donc, tous les papiers qu'ils signent, on leur impose de signer des choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc, quand ils arrivent ici, l'administration française vient rechercher leurs empreintes. On leur annonce, pour certains, qu'ils ont demandé l'asile en Italie. Et là, c'est le vide. Parce que non, ils ne veulent pas retourner dans un pays dans lequel ils ont été maltraités. Sachant que l'Italie, ça n'est que le dernier pays, enfin c'est le début de l'Europe. Avant, ils ont traversé la Libye, enfin en fonction des passages, hein, ils sont pas tous passés. C'est la Libye, le Niger, la traversée du désert, donc des contextes qui sont assez, en fait, assez horribles, assez inhumains, disons. Donc voilà. Aujourd'hui, ces personnes sont en attente. C'est des impasses permanentes. Je dirais qu'il y a, des administrations qui sont plus ou moins à l'écoute, mais des lois qui sont de plus en plus restrictives. Donc l'attente, c'est l'attente de comprendre si ça va être possible un jour d'avoir des papiers, ou l'attente d'être envoyé en Italie. Il y a des mineurs qui arrivent à être scolarisés, donc il y a un suivi qui est fait sur la formation, parce qu'effectivement, arriver en tant que mineur, ça crée plus de possibilités. Puisque il y a les lois du coup autour de l'enfance, et du coup voilà, pour l'instant il y a des mineurs aussi qui sont scolarisés. Ça c'est des belles victoires. Il y a pas toujours les lueurs d'espoir sont pas toujours évidentes pour nous qui accompagnons, et aussi pour les personnes qui arrivent ici, qui se rendent compte la violence psychologique, elle est très très forte. Mais voilà, il y a des petites victoires, comme par exemple plusieurs mineurs qui sont scolarisés. Voilà, sachant que ça c'est que des bénévoles, c'est des engagements bénévoles. L'État en lui-même, on pourra en parler aussi, a des devoirs, mais ne rentre pas du tout dans ses obligations. Et quand il rentre dans ses obligations, les maisons de l'enfance qui sont mises en place, les foyers d'accueil, les évaluations qui sont faites, toutes les obligations qu'a l'État de prise en charge au niveau du logement, enfin de tous les besoins vitaux, le logement, pouvoir se nourrir, se vêtir et avoir un accès aux soins, c'est la réalité, ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes des obligations de l'État français.
Vous parlez de la loi et de ses écueils. À vous entendre, on croirait que la loi est sans cesse alimentée par des circulaires qui émanent du ministère pour durcir encore plus les conditions d'accueil.
Exactement. C'est les circulaires, La loi Dublin, c'est du coup la troisième, la loi Dublin 3, il y a Dublin 4 qui est en train d'être préparé, qui va peut-être pas arriver tout de suite, mais bon. Il y a une circulaire qui est tombée, je sais plus quand, au mois de novembre ou décembre, du coup, circulaire Collomb, pareil, qui en fait, c'est de plus en plus restrictif. Donc les pays en Europe se renvoient la balle entre les pays qui sont les premiers pays d'arriver sur le territoire européen. Et donc là, on va parler de l'Italie, parce que c'est beaucoup l'Italie, en tout cas moi, les récits que j'ai. Donc par exemple, la France et l'Italie se renvoient sans cesse la balle. L'Italie peut difficilement accueillir, et puis il y a du racisme assez fort en Italie aussi, donc c'est compliqué pour les personnes de rester là-bas. En France, les lois sont de plus en plus restrictives pour venir contrôler et s'assurer que les personnes qui viennent ici vont bien être retransférées derrière, soit, enfin là pour le coup c'est en Italie, pas encore dans leur pays d'origine parce qu'ils sont pas encore en demande d'asile. Mais oui, c'est de plus en plus restrictif, ouais, de plus en plus restrictif. La nouvelle circulaire, elle vient aussi toquer les préfectures directement. Donc, c'est les préfectures qui vont avoir en charge le fait de lutter contre l'immigration clandestine. Donc, voilà, il y a tout un tas de lois qui viennent, du coup, enfermer encore plus les possibilités, faire reculer les possibilités d'accueil sur le territoire français.
Alors, pour être au fait de justement cette loi et de ces lois sans cesse en mutation, vous avez quand même le soutien d'une équipe qui soit un peu juriste quelque part pour vous aider dans les démarches ou d'être aussi, au fait de ce qui existe légalement.
Il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet. Donc du coup, nous, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui existe, qui a été déjà produit, écrit par d'autres collectifs en France. Il y a des associations qui existent et qui font de l'accompagnement juridique, ça c'est sûr. Il en existe à Valence. Aujourd'hui, c'est la même situation dans beaucoup, beaucoup d'endroits d'accueil. C'est qu'il y a tellement de demandes et de besoins du coup, les associations, disons, juridiques qui peuvent assurer des permanences sont souvent saturées pour l'accompagnement juridique, même pour l'accompagnement humain, souvent c'est saturé en fait, puisque l'État ne prend pas en charge. Donc nous, on tâtonne, on y va aussi avec ce qu'on est et on avance aussi avec du coup les copains qui sont accueillis ici. On travaille ensemble là-dessus. Mais il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure aussi. Il y a aussi des lois qui changent. Et puis on communique avec d'autres associations et on se serre les coudes pour dès qu'il y a des nouvelles, des réécritures en cours, dès qu'il y a on dit casser la procédure Dublin, il y a des personnes qui ont réussi à casser des procédures à Rennes, par exemple, on va aussi s'informer de cette manière-là. Après, oui, il y a des personnes qui ont plus ou moins de compétences juridiques dans le collectif et dans les collectifs, puisqu'on n'est pas tout seul, et on est aussi en réseau avec d'autres personnes. Voilà. Après, chacun, chacune, en fait, peut se saisir de cette question. Ça demande d'être un peu concentré et d'avoir envie de lire des textes de loi, mais une fois qu'on commence à rentrer là-dedans, moi, j'y connaissais rien avant de mettre le nez dedans, et c'est vrai que c'est obligatoire, en fait.
Notre problème, c'est le coût du travail. We'll be right back.
question, à savoir actuellement le flux de réfugiés ou de migrants, c'est assez au niveau de Briançon?
Alors là, il faut savoir quand même que à Briançon, le point de passage du coup depuis le mois de juillet, donc était déjà emprunté avant, mais pas autant. Donc depuis le mois de juillet, vraiment c'était énormément de passages par jour. J'aime pas trop les chiffres, mais disons une cinquantaine de passages avec beaucoup 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 de renvois à la frontière. Du coup, très 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 peu de temps après, puisque la frontière a commencé à être militarisée. Je ne sais plus exactement, mais à partir du mois de septembre, disons. Donc du coup, il y a les gendarmes, les militaires et la police aux frontières qui contrôlent systématiquement. Briançon, c'est le col de l'échelle, c'est 1760 mètres d'altitude. Donc on imagine en ce moment ce qui se passe. Là, le col est fermé parce que c'est des risques d'avalanche. Du coup, c'est la neige depuis le mois de, je sais plus, mais disons octobre, quoi. C'est le froid, c'est des personnes qui tentent de passer, qui sont souvent très 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 mal équipées, qui sont souvent fatiguées parce que c'est pas leur première étape et que parfois elles ont même marché, mettons juste sur l'étape d'avant, elles ont peut-être même marché des fois pendant 2-3 jours avant d'arriver à la frontière même. Il y en a qui prennent le train, mais voilà. Ça dépend des situations. Et le passage du col, c'est 35-40 km à pied. Ce qui explique beaucoup aussi, donc ça demande quand même d'être assez costaud. Il y a beaucoup d'hommes qui passent, mais il y a aussi des familles. Là, depuis la militarisation de la frontière, c'était très très violent, notamment pour les collectifs sur place, pour arriver à s'organiser, parce que c'est une répression folle. Et puis c'est du racisme en fait, c'est l'État en fait qui impose ça, que cette frontière, si t'es noir, tu passes pas en fait, de jour comme de nuit, tu passes pas. Si t'es blanc, t'es contrôlé. Si t'es militant, bah ouais, tu te fais emmerder. Et si t'es noir, t'es renvoyé direct à la frontière, voilà. Depuis, je sais pas depuis quand le col de l'échelle est fermé, mais je dirais que dans les deux derniers mois et demi, il y a effectivement beaucoup, beaucoup moins de passages, mais bien sûr qu'il y a du passage. Il y a encore des familles qui arrivaient, voilà. Il y a des jeunes, assez jeunes, qui arrivent aussi encore. Là, il n'y a pas si longtemps, il y a des jeunes de plutôt vraiment 13 ans qui arrivent. C'est des enfants, quoi, voilà. À Briançon, il y a une maison qui s'appelle la CRS, Collectif Réfugiés Solidaires, qui eux assurent vraiment l'accueil d'urgence. Donc toutes les personnes qui arrivent à Briançon, qui arrivent à passer et la frontière avec le col et la neige et la police, arrivent à cet endroit. Donc je ne sais pas exactement combien il y a de personnes qui passent, mais oui, il y a beaucoup de passages. Il y a eu aussi, il y a beaucoup aussi de douleurs physiques. Hein. Les personnes qui arrivent, elles sont, voilà, il y a un traumatisme physique qui est fort, notamment avec cette espèce de dernière étape enneigée, avec des personnes qui se sont fait amputer les doigts de pied, des personnes qui ont vraiment des douleurs qui vont rester toute leur vie en fait. Voilà. Donc oui, il y a toujours du passage et il y a aussi toujours des militaires. C'est un peu un état de guerre, même si l'état d'urgence, elle s'est transformée en une loi un peu. Voilà, une loi, disons, permanente, quoi. Ce qui est clair, net et précis, c'est que cette frontière-là, c'est comme, ça va faire comme à Vintimille, La Roya, fermeture totale, quoi.
Et il y a toujours les militants.
Ah oui, il y en a, bien sûr. Il y a plusieurs collectifs, il y a des gens qui s'organisent de manière différente, il y a des personnes qui s'assurent aussi de la survie des gens, parce que bah oui, à moins, je sais pas combien il fait là, mais il doit faire moins 10, moins 15 avec je sais pas combien de mètres de neige, la nuit, marcher dans le froid, sans carte, sans lumière, parce qu'il faut pas se faire voir de la police, en basket, avec un petit sac sur le dos, il y a des risques vraiment évidents sur la survie des gens. Donc il y a des personnes qui s'organisent, qui sont nombreuses et voilà, il y a des montagnards, il y a des gens des refuges, il y a des militants qui ont ouvert des lieux. Il y a un lieu qui est ouvert depuis le mois de septembre à Briançon. Il y a un qui s'appelle Chez Marcel, qui est un lieu d'accueil aussi. Parce qu'il y a aussi la réalité, c'est que Briançon, ça fait un peu cuvette. C'est-à-dire qu'il faut arriver à Briançon, mais après, il faut aussi arriver à en partir. Et du coup, il y a aussi des personnes qui se retrouvent à être envoyées de manière comme ça, très rapidement. 2-3 jours, il faut décider parce qu'il n'y a pas assez de place pour héberger les gens. Il faut décider, ben, tu vas où? Ben, alors, Paris, Marseille. Oui, ben, Paris, Marseille, Lyon, Grenoble. C'est des réseaux qui sont saturés. À Marseille, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes et de moins jeunes qui dorment à la gare depuis des mois et des mois. Il y a des personnes qui s'organisent dans ces différentes villes, mais c'est sursaturé. Donc voilà, il y a aussi un lieu qui a ouvert il y a, disons, un an et demi à Gap, en accueil. Il y a aussi un lieu qui a fermé il n'y a pas longtemps, la paroisse à Gap, du coup, qui était, disons, mis à disposition par le diocèse, il me semble, ouais. Qui accueillait, en moyenne 60 jeunes en fixe, 60-80 jeunes en fixe. Donc il y a près de 700 jeunes, des mineurs pour le coup, qui ont été hébergés là-bas et qui, du coup, ont été suivis pour leur entretien de reconnaissance de minorité et tout et tout.
Vous savez pourquoi ce diocèse n'accueillait plus ?
Oui, bien sûr, c'était un accord. En fait, l'accord, c'était que le lieu soit ouvert uniquement jusqu'à fin novembre, puisqu'il y a un accord de vente qui a été posé. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon, ça veut dire quand même que bon, ce lieu, il a été ouvert concrètement parce qu'il y avait des dizaines de mineurs qui dormaient devant la préfecture à Gap, c'est-à-dire dehors, voilà, pas du tout accompagnés et tout et tout. Bah, ces jeunes, maintenant, il y a une autre maison qui a été ouverte dans le Champsaur, mais pff, c'est compliqué parce que l'État a des obligations. Déjà, il les met pas en place de manière entière. Et la réalité, c'est que, par exemple, les maisons d'accueil des jeunes sont des prisons. Il y a très peu d'éducateurs, il n'y a pas de suivi, ils ont des assignations à résidence, c'est-à-dire qu'il y a des moments, en fonction des endroits, hein, je veux pas. Il y a des assignations à résidence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours le droit de sortir, voilà. Et la prise en charge, après, c'est pareil. C'est, ben voilà, faut aller trouver un lycée, un collège, se scolariser. Ben, l'accompagnement, il est très réduit. À Valence, c'est la même chose. À Valence, la maison de l'enfance, c'est pas toujours facile. Les entretiens sont pas toujours menés de manière humaine. Il y a énormément de jeunes qui savent pas, en fait, qui sont pas du tout accompagnés. Pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, on est capable de mettre des dizaines de militaires aux frontières. Ça coûte cher. Vraiment, c'est un coût. Ça, on n'en parle pas, avoir des chiffres, ce genre de choses. Par contre, on n'a pas assez d'argent pour protéger des mineurs ou même des majeurs, en fait. Donc leur apporter juste tout ce qui est vital, manger, dormir, voilà. Donc il y a des collectifs qui se mobilisent. Il y a aussi un lieu d'accueil d'urgence qui s'appelle le centre d'hébergement d'urgence pour mineurs qui a ouvert au mois de septembre à Vennes. Donc Briançon, Gap, encore après Vennes, juste au pied du col de Cabre, en fait, et qui là s'occupe du coup de prendre en charge les mineurs en cours d'évaluation qui ont des ordonnances de placement, des OPP, ou qui sont déminorisés. Voilà. La déminorisation dans les Hautes-Alpes, c'est quasi systématique. Voilà, la reconnaissance de la minorité passe par des évaluations. Ces évaluations sont menées tant bien que mal dans des délais plus ou moins, voilà. Et il y a du coup l'État déminorise beaucoup, ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui se retrouvent à devoir aller dans des endroits, dans d'autres départements de France, pour essayer d'être reconnus mineurs, voilà.
Et puis c'est un jugement arbitraire qui décide de la minorité ou pas d'une personne. Et même les tests osseux, hein, je crois, vous disiez qu'il y avait des marges d'erreur.
Oui, bien sûr. Après, c'est basé sur des. Ce qu'ils font, c'est que c'est basé sur des récits. Et donc les récits, effectivement, t'es parti quand de ton pays, t'es passé par où, à quelle date, t'as mis combien de temps pour traverser le désert. Il y a un moment, il y a des gens qui passent plusieurs mois en Libye dans des situations qui sont. Ça, c'est vraiment l'horreur. C'est des prisons, sans notion du temps. Et puis aussi, il y a des arbitraires. Effectivement, il y a des récits qui disent oui, je suis partie en avril du Mali. La personne qui est en face, qui est jamais allée au Mali, est susceptible de dire non, il fait pas chaud au Mali en avril. Voilà, c'est arbitraire d'une certaine manière. Voilà, les tests osseux, je sais pas de quelle manière ils les font. Ça coûte cher, en tout cas. Mais c'est pareil, les tests osseux, c'est un an et demi à deux ans de marge d'erreur. Donc pour évaluer une minorité, parfois pour des personnes qui ont 16, 17 ans, ou voilà, c'est très complexe de se dire que ça se passe comme ça. On regarde pas l'humain qui est en face, jamais. Dans tout ce que l'État met en place, on ne regarde pas l'humain qui est en face. On regarde des pièces, des numéros, des cartons, mais vraiment pour des personnes qui ont fui un pays, qui ont traversé quand même pas mal de choses assez difficiles, et à qui on va juste demander de se justifier en permanence. Et en plus, la loi d'exception, qui serait que c'est pas vrai, devient pas loi d'exception. C'est, on va de toute façon partir du principe que le but, c'est de déminoriser. Le but, c'est de prouver que la personne qui demande l'asile a tort d'être partie de chez lui. C'est inhumain, complètement inhumain.
Et donc, il existe, je crois, un chantier actuellement à Vercheny pour l'accueil de personnes sans logement.
Oui, du coup, il y a une association qui s'appelle Voix Libre Drôme, qui est donc un site internet depuis peu. Donc, si vous tapez Voix Libre Drôme, vous devez pouvoir tomber dessus, qui se mobilise pas que pour l'accueil de migrants, mais donc du coup, il y a une maison qui est en train d'être retapée pour accueillir des personnes qui ont des difficultés à se loger sur le territoire. Et du coup, l'idée, c'est de trouver la mixité justement entre des personnes qui n'ont pas forcément de thunes, qui galèrent à trouver un logement et qui ont des papiers, et des personnes qui sont en procédure et qui, du coup, attendent de savoir s'ils pourront avoir des papiers. Du coup, l'idée étant de mélanger, toutes ces personnes au même endroit. Je ne sais pas où ils en sont des travaux, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde, certainement besoin tout le temps de gens. Donc, si vous avez du temps, des compétences ou même pas de compétences, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, à Vercheny, il faut prendre la direction de Aurel et la maison est juste là, une maison avec des volets verts, il me semble. Et il y a du coup le chantier du lundi au vendredi qui se fait. Et donc, a priori, à partir de fin mars, avril, il y aura de l'accueil qui sera fait là-bas.
En prévision de la soirée du 21 février, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez peut-être demander prioritairement, que ce soit en vêtements ou en moyens ?
On a besoin de sous, ça c'est sûr. Après, c'est toute l'idée d'organiser une soirée festive. Donc, tous les bénéfices de la soirée seront utilisés pour du soutien aux migrants. Au niveau des vêtements, de la nourriture, ce genre de choses, il y a toujours des besoins. Après, j'aurais pas de besoins spécifiques à donner maintenant, d'autant qu'il y avait beaucoup de collectes qui se faisaient aussi pour les autres lieux, donc Briançon, Gap-Vaine, plus. Et aujourd'hui, les besoins sont quand même moins précis, disons qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Nous, on a toujours besoin de compétences comme des médecins. On a toujours besoin aussi de tout ce qui est médical, ça, pour le coup. On en a toujours besoin. Mais du coup, on a toujours besoin de compétences. Il y a des médecins bénévoles qui s'investissent. Mais du coup, on est toujours content de recevoir des nouvelles personnes qui peuvent apporter ce genre de compétences. Et après, il y a aussi besoin de personnes qui auraient envie de s'investir dans le collectif, bien sûr. Donc ça, c'est tout le temps nécessaire. On est bénévole et on passe beaucoup de temps pour du coup l'accueil, le suivi administratif, juridique, et l'accueil aussi. Donc des familles qui auraient de la place chez elles pour accueillir des nouvelles personnes et pour des durées plus ou moins longues, mais ça il y a toujours besoin aussi. Et on sera là bien sûr pour discuter avec les personnes qui ont des questions parce que c'est important aussi de bien poser les choses, de savoir dans quoi on se lance. Mais pour l'instant, les familles qui accueillent sont contentes et sont investies. Et certaines ont moins de temps, certaines ont plus de temps, mais il y a un échange assez magnifique. Et c'est peut-être ça la force aussi, je dirais, de se retrouver. C'est que après, si on met le nez dans les lois, si on met le nez dans les textes, on a envie de vomir. Si on se retrouve et qu'on en parle, toutes ces impasses, en fait, elles sont ramenées à l'humain. Et ramener les choses à l'humain, notamment en organisant des événements d'info ou festifs, c'est aussi pouvoir revenir à la source de ce qu'on défend. C'est autre chose qu'un simple papier, que des papiers, mais des rencontres. Moi, j'ai fait des rencontres absolument magnifiques depuis que je suis investie dans cette lutte et ça a changé ma vie, en fait.
parce que toi tu en as. Arrête de m'insulter parce que je n'en veux pas. Je ne te harcèle pas pour savoir pourquoi tu en as. Arrête de me demander pourquoi je n'en veux pas. Je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier. Vivre sans être mère, telle est ma volonté. N'essaie plus de me convaincre, tant pis si tu n'as pas compris. Vivre sans être mère, c'est ce que j'ai choisi.
Ces deux soirées, celle de Binglon et celle à venir de Châtillon, quels sont les points où les personnes peuvent vous contacter ?
Alors, il y a un mail qui existe, qui est migrant26, donc migrant au pluriel ou au singulier, ça fonctionne, 26 en chiffres, donc migrant26@riseup.net. On répond tant bien que mal aux demandes. On n'a pas du tout de site internet, par exemple. Après, il y a un point de collecte permanent qui est à l'ESCD, l'espace social ADI, pour déposer des vêtements, ce genre de choses. Et sinon, pour tout ce qui est dons ou pour tout ce qui est demande d'infos, il faut passer par le mail.
Et on va aborder peut-être, et ça en fera partie pour cette journée du 21 février, à 17h30, donc, et si on parlait des frontières. Donc ça sera une discussion autour de la revue Nunatak, que tu as commencé à présenter, je crois, en début d'émission. Et puis on va peut-être développer un peu plus ce qu'est ce Nunatak.
Alors moi je pourrais pas en parler de manière très poussée. Si vous voulez avoir des infos, il ne faut pas hésiter à trouver la revue, mais c'est vrai que je ne pourrais même pas dire où elle est disponible. C'est le deuxième numéro qui vient de sortir. Ce que je veux bien faire par contre, c'est vous lire l'introduction de leur texte éditorial, je crois qu'ils appellent ça comme ça, leur édito, que vous trouvez sur le site internet. Quoi qu'il arrive, vous pouvez taper Nunatak, Nunatak sur internet, vous aurez un site qui vous expliquera un peu mieux ce qu'est cette revue. Là, je vous lis le début du petit texte qui m'a bien parlé. Nous habitons la montagne. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, un exil, un refuge, une prison. Nous l'habitons par désir ou par la force des choses et nous posons la question de comment habiter cet espace. L'habiter réellement, ne pas nous contenter de notre position de consommateur perpétuel, dévier du sentier balisé des flux de la marchandise et de l'autorité, nous attaquer à ce qui nous sépare les uns des autres, nous plonger dans les histoires que racontent les ruisseaux, les êtres, les arbres ou les rochers. C'est vrai que du coup, dans cette revue, il y a du coup des articles sur les frontières et la migration, mais pas que. Il y a aussi des articles sur la montagne et du coup, là, j'imagine tout ce qui, donc ce que vient de dire ce texte, tout ce qui est rapport à la nature en elle-même. C'est assez beau parce que effectivement, si on se fait noyer dans des On se fait souvent noyer par la consommation, par aller vite, travailler, société de production et le capitalisme qui nous étouffe quand même beaucoup et qui nous... C'est une persécution. Enfin, moi, je trouve que c'est une persécution, en fait, parce qu'on oublie qui on est. La lutte qu'on mène de soutien aux migrants, elle est tout le contraire, en fait. Ce qui nous étouffe, c'est la réalité, mais comment on change cette réalité ? Je trouve ça assez chouette. En tout cas, la revue en elle-même, elle est très très belle. Vraiment, si vous l'avez en main, vous verrez que c'est un très beau travail. Revenir à l'essence de ce qu'on est. Et la nature est un bel exemple, même si effectivement, parfois, la montagne peut tuer des gens. C'est ce qui s'est pas encore passé concrètement, mais c'est ce qui probablement pourrait se passer vu la situation, en tout cas au col de l'échelle où des gens risquent de mourir tous les jours.
Une attaque, donc il y aura une équipe de cette édition qui sera présente,
oui,
pour répondre aux questions.
Bien hein, sûr.
Voilà.
Donc du coup, cette revue, une attaque... Donc traite de cette montagne, et c'est vrai que l'idée de les inviter aussi sur cette soirée et de faire se suivre ces deux discussions, c'est que nous on est sur un territoire quand même montagneux, ça c'est sûr.
Depuis que je t'entends parler, je me remémore une émission de France Culture qui s'était faite justement, je crois, au col de l'échelle. Je sais pas si tu l'avais écoutée.
Pas entièrement.
Et il y avait des journalistes dans la voiture avec un ou deux militants et puis une personne accueillie. Tant bien que mal, et qui sont arrêtés par les gendarmes. Et à un moment donné, le gendarme met en face de ses responsabilités le journaliste, comme quoi il s'est porté dans une situation illégale en ayant une personne illégale dans son véhicule. Et donc il y avait cette notion de culpabilisation du gendarme envers la personne qui ne ressentait aucune culpabilité puisqu'elle agissait pour, assistance à personne en danger. Voilà. Et je voulais savoir... Est-ce que l'État en est arrivé à culpabiliser le citoyen ?
Bah, si on prend l'exemple de la Roya, Vintimille, du coup la frontière plus au sud, il y a des militants qui se sont fait interdire de territoire. Donc oui, la répression, clairement, elle vient intervenir dans cette culpabilisation. Je ne sais pas si ça culpabilise vraiment les gens, mais en tout cas, ça les met face à des potentielles arrestations. Il y a déjà sur la frontière de Briançon, il y a déjà des personnes qui ont été convoquées à la police aux frontières, à la PAF. Il y a une pression dingue parce que oui, il y a des militants et des journalistes, parce que bah oui, il y a des journalistes dans l'école qui viennent donc pour couvrir ce qui se passe. Bon, et bien ces personnes-là, quand elles se font attraper par les flics, forcément le discours, les flics ont la loi, une forme de loi avec eux, parce que les flics eux-mêmes ne respectent pas cette loi. Ils n'ont pas le droit de renvoyer des personnes en Italie sans leur donner une preuve administrative qu'ils ont récupéré les gens aux frontières. Il y a plein de droits qui sont complètement bafoués. Et voilà. Donc la culpabilisation. En fait, la frontière du légal ou de l'illégal, ça dépend de chaque personne. Donc, il y a un moment où, oui, dans ces situations-là, on dépasse le légal. Mais je dirais, tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Et à quel moment le pouvoir n'existe que pour l'État ? Enfin, à quel moment il y a que l'État ou les flics qui ont le pouvoir ? En fait, c'est pas vrai, nous aussi on a le pouvoir. Donc j'ai l'impression que de toute façon, toutes les personnes qui se mettent dans des luttes où la frontière entre légal et l'illégal est concrètement devant nous, elles savent comment elles se positionnent. En ce qui concerne les journalistes, c'est complexe parce que couvrir ce genre d'événement, il y a des journalistes qui sont allés dans les montagnes la nuit, qui ont du coup écrit ou filmé ou fait des reportages radiophoniques sur des situations claires d'illégalité, qui mettaient en cause leur personne, mais aussi d'autres militants qui sont sur le terrain tout le temps. C'est hyper complexe. Le journaliste qui se fait choper, c'est sûr que si, il y a une nana de Suisse, je crois, qui s'est fait voler tous ses documents et à qui, du coup, on a... Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'elle a eu une assignation au tribunal. Voilà, je connais plus trop l'histoire, mais... les journalistes, c'est à part. Eux, ils sont là, mais en fait, ils sont pas là tout le temps. Et c'est les militants qui sont là tout le temps. Et cette question de l'illégalité, de la culpabilisation, parce qu'on n'a pas le droit de faire ci ou pas le droit de faire ça, en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qu'on fait quand même.
Voilà, et on approche de la fin de l'émission. Et pour en savoir plus, donc, il y aura aussi un kiosque qui s'appelle... comment on s'appelle ? Un kiosque... un infokiosque. Voilà, avec des vinyles, des cassettes, des brochures, des cassettes musicales ou de... C'est quoi qui seront vendues en cassettes ?
Alors, je ne connais pas précisément la distro de La Loutre par les Cornes. Je sais qu'ils ont une très belle table que j'ai eu l'occasion de voir il y a une année ou deux. Donc, je ne pourrais pas précisément dire, mais ça ne m'étonnerait pas que les vinyles et les cassettes soient en lien avec les groupes qui viennent jouer. Voilà. Après, l'infokiosque de la loutre par les cornes, j'imagine, va être assez large. Je peux parler un peu plus de l'infokiosque que nous, on propose, puisque c'est un infokiosque spécifique sur les frontières. Il y a beaucoup de documents qui existent sur Internet quand on sait où les trouver. Et du coup, beaucoup de documents qui informent un peu plus précisément sur ce que c'est que la demande d'asile, sur ce que c'est que la procédure Dublin, sur des témoignages qui, du coup, ont pu être glanés en France et dans d'autres pays, des témoignages de personnes, du coup, en exil qui racontent leur histoire. Et aussi des témoignages un peu plus locaux, parce qu'on a quelques brochures aussi sur ce qui se passe ici. Et sur le territoire de la Drôme et en France plus largement. Voilà, aussi des guides qui permettent aux personnes qui auraient envie d'héberger de pouvoir savoir un petit peu plus ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, sur le thème des frontières et de l'accueil, nous, on propose quand même pas mal de choses.
Eh bien, merci Tiffaine d'être venue. Et donc, je rappelle la soirée de soutien aux migrants, mercredi 21 février, entre 16h et minuit, à Châtillon, en Diois. Salle des fêtes, Henri Kubnik, je pense. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Interview. 1 Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.